Ma chère Ève, branchée.
Cher
ce
Guillaume.
Casque magnifique.
Oui, je ne sais pas pourquoi je suis branchée, parce qu'apparemment, ça ne marche pas du tout.
Ah, c'est ennuyeux.
Je
ne
sais peut-être pas, oui. Vous voyez, vous me voyez en train de faire des petites manœuvres.
J'adore ça. Non, nous allons parler de... Ah oh ben, cosy fan tutte.
Voilà, oui.
On peut cosy difficilement faire tutte. Mieux.
On peut difficilement faire mieux. Et surtout, il faut se précipiter à l'Opéra Garnier du 23 janvier au 19 février pour en découvrir toutes les merveilles, aussi bien du côté du livret signé de Dapontet que, évidemment, du côté de la musique signée Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le troisième opéra de cette trilogie qui nous enchante. On a beau connaître presque toutes les notes et presque tous les mots. À chaque fois, c'est un éblouissement. Ça avait commencé par les noces de Figaro, ensuite avait suivi Don Giovanni. Et enfin, ce cosy fan tutte, c'est pour moi, je peux le dire, peut-être le plus beau de ces trois, de cette trilogie. En tout cas, c'est l'opéra du jamais plus. Sur fond de décor qui se passe à Naples, qui est véritablement la ville de toutes les ambiguïtés, et ça tombe fort bien, en tout cas pour Don Alfonso, qui n'est autre que le portrait de l'abbé Dapontet. C'est l'histoire, c'est l'histoire du paradis perdu, du jamais plus, je vous le disais, avec quelques duos, quelques trios, quelques ensembles, dirons-nous, tous plus somptueux les uns que les autres. Et les noces de Figaro avaient été un succès. C'est à la suite de ce succès que l'empereur Joseph II avait passé commande à Mozart, qui en était enchanté, évidemment, d'un second opéra sur une idée qui était... dit-on, celle de l'empereur qui avait appris que deux officiers à Trieste avaient échangé leurs épouses. Alors, je ne sais pas si l'histoire des deux officiers avait véritablement inspiré Joseph II pour suggérer à Dapontet d'écrire un livret là-dessus. Toujours est-il que le génie de Dapontet et son cynisme, je vous en parlais, allaient faire le reste, comme d'ailleurs le génie et la tendresse mélancolique de Mozart, s'interrogeant douloureusement sur la fidélité de Constance, allaient porter au plus haut ce que l'homme peut exprimer de ses sentiments intimes au sujet de l'amour inséparable de la fidélité. Dès l'ouverture, après vous allez voir une fugace petite fanfare qui n'est pas sans nous faire penser à l'air que chante le comte dans les noces de Figaro lorsqu'il menace Chérubin de l'envoyer pour la guerre. Eh bien tout ça, l'opéra va commencer sur cette petite fanfare pour nous mettre au cœur du sujet, mais tout de suite c'est le hautbois amoureux qui va intervenir et tout ça sur la plus joyeuse des orchestrations. Voilà, c'était donc l'ouverture de Così fan tutte qui va être donnée à partir du 23 janvier à l'Opéra Garnier, qui est un cadre admirable pour ce petit opéra pour la distribution. Hein. 6 personnages, dont 5 chanteurs, 3 sopranos dans la partition originale, et un baryton, et puis Don Alfonso, qui est celui qui ne chante pas et qui va conduire ce quatuor d'amoureux vers quelque chose d'irréparable. Là, c'était l'Orchestre de Chambre d'Europe, sous la direction de Sir Georg Schulte, qui interprétait cette ouverture. Alors, il était une fois, donc, ça commence toujours comme ça, les histoires, dans une taverne napolitaine, je vous le disais, 2 jeunes gens adorables qui étaient prêts à parier sur leur vie, que leurs 2 fiancés étaient la fidélité même. Voilà, ce qui amusait beaucoup Don Alfonso, alias Da Ponte. Hein. Don Alfonso, c'est Da Ponte, je vous le disais, avec son cynisme dont il est absolument pas dépourvu. C'est l'instigateur, en tout cas, du pari qui est convaincu que la fidélité des femmes ressemble au phénix dont on parle beaucoup, mais qu'on ne voit jamais. Voilà. Donc, Guglielmo, c'est le fiancé de Fiordelici, et Ferrando, celui de Dorabella. Ils vont accepter, sur 2, de se déguiser en officier albanais, retour de la guerre, pour tenter de séduire leurs 2 fiancés. Et c'est Don Alfonso qui va arriver et annoncer la mine défaite que, malheureusement, leurs 2 fiancés, Ferrando et Guglielmo, doivent partir pour la guerre. Le tout sur un thème charmant dû à Mozart, chanté par le chœur, qui n'est pas sans nous évoquer, je vous le disais tout à l'heure, un certain chérubin des noces partant, enfin menacé d'être envoyé à l'armée. Écoutez, c'est charmant. Signé Wolfgang Amadeus Mozart, mais ça suffit pour nous expliquer que la vie militaire est une belle vie, que les soldats sont un jour ici, un jour là, et au hasard des rencontres qu'ils font, eh bien le plaisir est aussi au rendez-vous. C'est une belle manière de voir la guerre, et c'est un sourire de Mozart qui est interprété là par l'orchestre de l'opéra de Perm, qui se trouve en Sibérie, au cas où vous l'auriez oublié comme moi, et c'est le maestro Theodor Korensis qui l'interprétait. Alors, on peut imaginer le désespoir, qui n'est pas fin d'ailleurs, des 2 fiancés qui vont voir partir comme ça d'une manière tout à fait inattendue leurs 2 fiancés pour la guerre. Donc Fiordelici, Dorabella sanglotent, sont désespérés, adieux déchirants. Et pour Mozart, c'est l'occasion de composer peut-être l'un des plus beaux trios de tout le répertoire de l'opéra, le fameux Soave sia il vento, qu'il soit doux le vent et que l'onde soit tranquille. C'est 3 minutes de bonheur absolu, chanté dans cette interprétation par, que vous allez écouter, Kirite Kanawa, Anne Murray, qui est une mezzo-soprano. Mais je vous le disais, la partition originale est écrite pour 2 sopranos, et Ferruccio Furlanetto, excellentissime baryton.
Thank you.
sublime moment de musique, que ce soit Vessi il vento de Così fan tutte, c'est le trio d'adieu lorsque leurs fiancés vont partir pour la guerre. C'est Ekiri de Kanawa, Anne Murray et Ferruccio Forlanetto qui l'interprétaient sous la direction. C'est vrai que c'est un peu lent, disait Jérémy, de James Levine, mais c'est tellement sublime qu'il faut vraiment en profiter. Et profiter de chaque note, et c'était l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui accompagnait notre trio. Voilà. Mais déjà, Despina, les soubrettes chez Mozart. Elles sont toutes si mignonnes, si fraîches, si espiègles, si, par moments, un petit peu cruelles, elles aussi, lorsqu'elles se prêtent au jeu, et c'est le cas de Despina, au jeu d'Alfonso, pour faire perdre leur pari aux deux jeunes gens qui ont parié sur la fidélité de leur fiancé. Alors, ben évidemment, Despina leur explique devant leur désespoir qu'il faut rien exagérer. Hein. Ils sont partis pour la guerre. S'ils reviennent, tant mieux. Puis s'ils reviennent pas, il y en aura plein d'autres. Hein. Un de perdu, 10 de retrouvé. Grosso modo, c'est ça qu'elle leur chante. Et les jeunes filles sont scandalisées et elles le sont tout à fait de bonne foi. Et lorsque retour donc de la guerre, Ferrando et Guglielmo, costumés en albanais, se démènent pour les séduire, ils se trouvent devant deux guerrières défendant la cause de la fidélité, les repoussant fermement. Alors on se dit, est-ce que Don Alfonso aurait perdu son pari si l'on écoute Fiordiligi dans le fameux et très redoutable Come solo io? Qu'est-ce que ça dit? Come solo io, scolio, in otto resta comme un roc inébranlable dans le vent et la tempête. Ainsi, notre âme restera immuable dans la foi et l'amour. Oui, 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 on dit ça, on dit ça, on dit ça.
Thank you.
Voilà, c'était... Enfin, on dit voilà. J'imagine toujours la malheureuse soprano, 40 secondes avant d'attaquer cet air qui dure presque, quoi, 4 minutes, un petit peu plus de 4 minutes, mais qui cumule toutes les difficultés possibles. C'est-à-dire, on demande à une soprano d'être colorateur pour attraper les aigus qui sont dans la partition, d'être presque contralte pour descendre dans les graves graves qui sont écrits, parfois sans note de passage, c'est-à-dire on passe directement de l'aigu au grave, avec, entre-temps, pour agrémenter tout cela, ces exercices vocaux incroyables, des vocalises, des arpèges qui s'enchaînent les uns derrière les autres. C'est vraiment l'un des airs les plus redoutables et les plus redoutés de toute soprano normalement constituée. Et là, c'était Margaret Marshall qui l'interprétait magnifiquement avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Riccardo Muti. Alors, j'aurais bien aimé vous passer encore, on va le faire vite. Un autre air, c'est celui de Fiordiligi. Toujours, j'ai un peu sacrifié Dorabella, là. Mais c'est parce que je trouve que Fiordiligi, c'est celle qui a résisté le plus longtemps. Donc finalement, c'est celle qui a vécu les meilleurs moments. C'est ce avant qu'on décède et après, ça se complique. Toujours est-il que c'est Dorabella qui a accepté la première que son Albanais remplace le médaillon qu'elle portait autour du cou, laissé par son fiancé, par le sien, son propre portrait, alors que Fiordiligi, elle va résister, et elle va chanter un air qui est aussi magnifique, c'est Per pietà, ben mio, perdona l'erreur, et pitié, mon amour, pardonne l'erreur d'un cœur aimant. S'il faut s'éloigner de la sublime Renée Fleming, voix de crème chantilly, disait Sir Georg Schulte, qui l'accompagne là avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, pour cet air de Fiordiligi, qui est absolument magnifique, c'est Mozart et la tendresse et la mélancolie, tout ce qu'il a porté au plus haut sommet, je vous le disais tout à l'heure, des sentiments humains. Alors, il faut vous rendre au Palais Garnier, d'abord parce que c'est un endroit magnifique, ensuite parce que c'est cet opéra incomparable, et enfin parce que vous allez découvrir une mise en scène de la chorégraphe Anne-Theresa de Kirchmacher, qui est plus connue pour la danse.